Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
On mérite toutes et tous mieux en termes de contraception. Et si je vous disais qu'une nouvelle ère en matière de contraception commence grâce à la prise de conscience de cette charge contraceptive qui finalement devrait être aussi gérée par les hommes. Maxime Labrit, infirmier de formation, conférencier et formateur, fait partie de ces acteurs du changement dans le domaine de la contraception masculine, et ce depuis plus de 6 ans. Il va en 2016 se pencher sur la question de la charge contraceptive et va entamer ses propres recherches sur la contraception thermique testiculaire. Il va fabriquer lui-même son remonte-couille. Il va tout nous raconter dans cet épisode. Aujourd'hui, Maxime se consacre entièrement à cette cause qui traverse de nombreuses thématiques: déconstruction des masculinités, charge mentale, relations patient-soignant, place de l'industrie pharmaceutique dans les politiques de santé publique, connaissance de son corps, éthique médicale. La liste est infinie. Vous l'aurez compris, le focus de cet épisode est sur les couilles. Maxime, bienvenue sur le podcast Camille parle sexe.
Merci Camille, bonjour à tous. Merci de me recevoir.
Un grand plaisir de te recevoir. On se connaît maintenant depuis quelques années et ton travail est formidable, donc j'ai hâte que tu puisses en parler, que les gens puissent découvrir tout ça. Alors, tu es un des acteurs dans le domaine de la contraception masculine et plus particulièrement de la CMT, la contraception masculine testiculaire. Est-ce que déjà tu peux nous en dire avec tes mots, qu'est-ce que c'est la CMT ?
Déjà, la CMT, c'est l'acronyme de contraception masculine thermique, c'est le premier point.
C'est bien de me corriger.
Oui. c'est pour ça, la contraception masculine, déjà, elle se questionne par son nom, en fait, et la manière dont on l'appelle. Est-ce que c'est une contraception masculine, déjà ? Est-ce que c'est une contraception dite masculine ? Est-ce que c'est une contraception testiculaire ? Est-ce qu'on peut genrer la contraception encore au XXIe siècle ? Et aborder ça de manière binaire, ou est-ce que collectivement on est prêt aussi à repenser ces pratiques contraceptives en incluant justement une porosité dans la binarité de genre qui est encore trop présente et trop pesante. Donc c'est un peu comme ça que j'ai envie d'ouvrir le débat, c'est questionnez-vous sur comment vous nommez vos actions autour de vous. Et on a la chance actuellement justement d'être à une nouvelle ère, comme tu le disais justement, les pratiques contraceptives. Et cette nouvelle ère s'ouvre justement sur la manière dont on peut nommer les choses. On a ce privilège-là pour le moment. Donc c'est assez important de pouvoir se questionner sur notre manière de nommer et d'agir dans notre quotidien et dans notre quotidien contraceptif. Donc c'est pour ça. Je pense pas que la contraception soit masculine ou féminine. Elle n'appartient pas en fait à une catégorie de genre. Elle est la contraception, c'est une elle est relationnelle. Elle est entre deux individus. Elle est à la rencontre de deux individus. Très clairement. Donc elle n'appartient pas à une personne, mais elle appartient en fait à une dynamique collective, à un groupe de deux personnes. Et donc comme elle est à la rencontre de deux personnes, à la rencontre au final de deux identités, je pense que dans un futur proche, il serait intéressant justement de pouvoir non plus genrer les pratiques contraceptives, mais peut-être les appeler par leur aspect organique, parce que ben, il y a certes une contraception testiculaire, en fait, on pourrait le développer comme ça. Pourquoi testiculaire? Parce que ben, c'est bien dans les testicules que les spermatozoïdes sont produits. Et si on se propose ce petit pas de côté au niveau des contraceptions, donc testiculaires ou anciennement masculines, il est possible d'intégrer tout le scope des pratiques contraceptives. Il y aurait des contraceptions pré-testiculaires qui seraient du coup des contraceptions hormonales. Pour les garçons, les actions d'hormones du coup agissent avant en fait la production de spermatozoïdes, elles viennent stimuler la production. Il y aurait des contraceptions post-testiculaires, je pense à la très très connue capote, préservatif externe, qui du coup vient de réagir justement à la sortie du sperme, donc on serait bien après l'organe. Et il y aurait des contraceptions qui seraient purement testiculaire en termes de champ d'action et qui serait la thermique en particulier parce que elle vient agir justement sur l'outil de production, sur le testicule et en le réchauffant, comme vous le savez, un testicule en fait ne produit plus de spermatozoïdes.
Super intéressant. On voit l'importance des mots et tu as bien fait de me corriger sur la CMT. Et cette contraception qui est pré-testiculaire, testiculaire ou post-testiculaire, donc l'importance des mots. Est-ce que cette contraception, et j'entends aussi d'essayer de s'écarter aussi du genre. Alors, pour ces épisodes-là, bah, c'est vrai que j'ai mis contraception dite féminine, contraception dite masculine. Mais c'est compliqué à savoir comment nommer les choses. Et puis pour que ça parle aux gens, parce qu'en fait, même contraception testiculaire, il y en a beaucoup qui vont se dire « mais qu'est-ce que c'est ça ?»
Oui, oui. Mais justement, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve dans ma pratique, quand je parle à des personnes, ou, enfin, durant des ateliers, je trouve que c'est assez intéressant justement de sortir aussi un peu de la norme en termes de langage. Volontairement parce que justement la personne vient se questionner sur quelque chose qui a besoin d'être questionné au lieu de l'aborder directement en fait sur une approche comment dire avec les freins socioculturels. Si je parle de contraception masculine tout de suite, ça va renvoyer à des images de soit de dévirilisation, de castration, on arrive avec un bagage en fait culturel et imaginaire qui tout de suite en fait va renvoyer la personne dans des choses assez freinantes qu'il va falloir déconstruire. Alors que si je l'aborde d'un point de vue organique et que je parle du testicule en fait qui est le tabou et que du coup je le mets en lumière tout de suite et que je parle de lui, la personne en fait va être dans une interrogation. Elle va essayer de comprendre ce que je lui raconte. Et du coup, ça m'intéresse en termes pédagogiques d'aborder ça comme ça parce que cela vient hacker un peu le fonctionnement de la personne que j'ai en face de moi et ça vient la mettre justement dans une interrogation et donc en fait dans une phase d'apprentissage. Et après, dans un second temps, après, il est possible de parler justement et de déconstruire un peu les masculinités et d'aborder un peu ce fameux testicule et est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est possible, est-ce que je vais rester un garçon et tout ce qui va avec en termes de pratique de genre encore bien patriarcale et bien ancrée.
Voilà. On va parler de ces freins justement aussi dans l'épisode, mais donc tu parlais de, en fait, en utilisant ces mots-là, ça permet aussi une sorte de pédagogie, de déconstruction. Est-ce que du coup, ça serait une histoire militante pour toi?
Oui. Mais plus que militante, c'est une histoire d'activisme. Le militantisme à la française, comment dire, dont là, enfin, c'est là qu'a démarré cette contraception thermique, ce militantisme, au final, il est resté assez stérile. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire passer, à conserver, on va dire, une information pendant des dizaines d'années, mais il n'a pas réussi à changer les mœurs, en fait, en 40 ans. C'est pour ça que militer, pour moi, enfin, dans cette culture militante, ça me pose beaucoup de questions, parce que l'intérêt, c'est pas justement de, comment dire, de ne faire que tenter d'en parler, ou de critiquer l'existant, mais pour moi, en fait, il faut passer à l'action à un moment donné. On le voit bien un peu avec les changements climatiques et les nouvelles actions plutôt des populations jeunes, où il y a l'idée de on arrête collectivement de parler et on commence vraiment à agir, en fait. Et c'est assez intéressant, et je pense qu'on a atteint un peu ce point d'urgence contraceptive, où il est temps de repenser, en fait, nos pratiques et de repenser nos mœurs, mais pas que de faire d'y penser, il faut vraiment agir. Donc pour moi, c'est de l'activisme, en fait, très concrètement, et c'est très 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 important de faire en sorte que les personnes passent à l'action sur ces thématiques-là, parce que pour moi, ça va être la seule manière de changer les mœurs. Il va falloir que les gens pratiquent. Si les gens ne pratiquent pas, on ne va pas arriver collectivement à changer des mœurs. On pourra en parler tant qu'on veut, pendant 3 siècles. Si les gens ne passent pas à l'action, ça restera stérile. Et pour le coup, ce qu'il faut contracepter, ou en tout cas réduire en termes de fertilité, c'est bien le testicule et les garçons, pour améliorer les pratiques contraceptives et une meilleure équité. Et ce qu'il faut fertiliser, en fait, c'est l'action. Donc pour moi, le
J'adore.
militantisme, c'est sympa, mais ça ne change rien au final. Ça ne change rien. Ça ne change rien à ce qui est assez connu médiatiquement, c'est un peu ce côté présentons tout le temps des méthodes qui existent de contraception tous les 6 mois, qui est très confortable médiatiquement. À chaque fois, il y a des effets d'annonce en disant attention, ça sort. Et en fait, rien ne sort. Et cette position-là, en fait, transforme les gens en personnes qui attendent quelque chose, et en se dédouanant de la responsabilité de continuer à chercher ou de passer à l'action, et en se disant, pas de souci, ça arrive bientôt. Donc ça permet aussi de se déculpabiliser, en fait.
Et
C'est assez...
déresponsabiliser, dire ah bah, moi je voudrais bien, mais
Ouais.
bon, il n'y a rien qui est proposé, donc j'attends.
C'est ça, moi je suis prêt. Mais attendant, mais moi le premier, hein, avant que je tombe sur la thermique et l'hormonale avant 2016, j'étais le premier à dire, mais ouais, moi, sitôt qu'il y a une pilule qui arrive, je vais la prendre, promis, enfin, ok. Et être resté comme ça, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, en étant affirmé. Et j'y croyais à mon discours. Vraiment, en disant, là, vraiment, hein, si ça arrive, je suis prêt. Et en fait, c'était comme si je donnais mon pouvoir, en fait, ma capacité d'agir à d'autres, en fait, et principalement aux lobbies pharmaceutiques et aux politiques de santé publique. En disant, ben, tant que c'est pas là, c'est que c'est pas prêt, en fait. Je me disais, bon, collectivement, bon, quand même, enfin, le politique et le lobby pharmaceutique va pas aller au point de minimiser, invisibiliser, rendre inaccessible, dévaloriser ou je ne sais que sais-je, des méthodes et des alternatives en fait pour améliorer l'équité contraceptive. Enfin, ça me paraissait un peu foufou comme histoire, mais quand même, bon,
Et finalement, pas
c'est
tant que ça.
bon. Puis surtout depuis 2013 et 2012 avec les scandales sur la pilule et tout ça, il y a besoin en fait de nouvelles alternatives. Il y a besoin de ventiler la contraception d'une certaine manière en apportant des nouvelles possibilités pour essayer de faire en sorte que les grossesses non désirées soient toujours le moins importantes possible, quoi. Enfin, c'est ça.
Et donc, du coup, tu es passé d'une phase de un peu bah, d'attente que finalement les choses viennent à toi, à une phase activisme où là, tu as décidé de créer toi ton propre remue-couille, ton propre anneau thermique appelé Andro Switch. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ça?
Ouais, et ben donc vraiment par hasard, je suis tombé sur ces méthodes de contraception, et d'un point de vue pro et d'un point de vue perso, ça m'a quand même sensiblement énervé cette histoire, parce que je me suis dit, mais il y a quand même une omerta, une sorte de consensus autour d'un silence en fait et d'une inaction qui est acquise culturellement. Mais sociétalement, tout le monde était d'accord pour dire il n'existe rien. Alors qu'en fait, il existait des méthodes. C'est simplement que personne n'avait envie de les développer parce qu'elles étaient considérées comme inacceptables. Et puis, la fameuse phrase que j'ai entendue régulièrement, c'est la contraception, c'est une affaire de femme. Le problème est réglé. L'idée, c'est on remet pas les mains dedans, en fait. Ok. Donc ouais, je suis passé à l'action et je suis passé à
On se
l'action.
déresponsabilise.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est soyons des responsables collectivement et puis tout va bien. Voilà.
Ouais. Et puis pour les femmes, se responsabiliser encore plus, se dire bah non, c'est une affaire de femme, donc je prends ça en charge, je prends ça sur mes épaules.
Ah ben c'est sûr, en faisant ça, on vient creuser en fait l'écart en fait entre les garçons et les filles, on vient renforcer une position patriarcale du côté des garçons, et on vient isoler les filles dans leur pratique contraceptive, qui certes doivent toujours rester plus importantes, plus accessibles que celles des garçons, parce qu'il faut être en alliance féministe, de toute façon, il faut que la contraception soit toujours, je veux dire, aux mains des personnes avec des utérus, parce que s'il y a une grossesse, c'est dans leur corps que ça va se passer, donc c'est très 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 important. Mais ça n'expliquait pas pourquoi il n'y avait pas plus d'alternatives pour les garçons. Pour les garçons, on a quand même deux alternatives qui ne sont pas en soi des méthodes de contraception pures, en fait. On a une protection MST-IST avec le préservatif externe, qui certes sert de contraception, mais comment dire, vu son efficacité, bon, c'est pas top top. Et puis voilà, c'est d'abord une protection et une barrière. Et l'autre méthode, c'est la vasectomie, qui est une méthode de stérilisation et qui est vendue comme une méthode de contraception. Alors qu'une méthode de contraception, le premier critère, c'est sa réversibilité et qui en plus augmente les cancers le risque de cancer de la prostate. Bref, on a deux méthodes qui sont
Oui.
deux anti-méthodes. Ouais. Et c'est assez questionnant en fait de se dire, on propose aux garçons deux anti-choix. En gros, soit on coupe, soit on recouvre. Et en tout cas, à aucun moment on dit tu vas pouvoir maîtriser ta fertilité, prendre en charge ton testicule, en fait, réguler sa production. Non, on va soit couper, donc empêcher que ça sorte d'une manière ou d'une autre, soit on va recouvrir et du coup empêcher que ça sorte. Mais à aucun moment on ne touche à la fonction, en fait. On vient tourner autour. Et ça, c'est assez questionnant, au final. Assez questionnant. Ouais.
Tourner autour, peut-être parce que c'est rassurant d'une sorte, parce que si on touche au fonctionnement interne aussi, il y a peut-être cette peur finalement de ce qui va se passer.
Moi, le premier, hein, quand je me suis remonté les testicules pour la première fois, j'en ai pas large non plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire. Je comprends la réticence qu'il peut y avoir à se dire, ok, alors mon testicule, je vais l'internaliser, il va disparaître entre guillemets, ou voilà, ou je vais prendre une piluche qui va avoir une action sur mon testicule pour arrêter la production. C'est le rapport à la perte, en fait, le rapport à l'absence. La spermatogénèse, la production du coup de spermatozoïdes, elle se fait sur un cycle de 3 mois à peu près. 3 mois pour produire un groupe de spermatozoïdes. Il y a à peu près 1000 spermatozoïdes, je crois, hein, qui sont produits à chaque battement de cœur. Donc c'est beaucoup. Et au bout de 3 mois, ils sont, en gros, ils arrivent dans un réservoir, ils sont soit éjaculés, donc externalisés, soit détruits sur place. En gros, voilà, c'est un peu l'histoire.
Détruit sur place, donc absorbé par le corps, quoi.
Ouais, ils sont phagocytés, au final, ils sont détruits. En gros, c'est une sorte de cycle de vie, un spermatozoïde. Et voilà, on peut le presque. Alors, on peut pas le caractériser. C'est un peu comme un ovocyte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une phase de développement, de création au final de la gamète. On va dire le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence. Après, il y a vraiment une différenciation qui se fait. C'est-à-dire que le spermatozoïde est issu d'une cellule ronde, donc il est totalement indifférencié au départ. Il ressemble à n'importe quelle cellule à la base, il ressemble à une cellule souche, voilà. Et il vient se différencier et du coup atteindre un peu ses caractéristiques secondaires. Et ses caractéristiques secondaires sont basées principalement sur sa capacité 1 à se déplacer, 2 à survivre, et 3 à transporter correctement un capital génétique. Voilà, c'est un peu son taf. Voilà. Du côté de l'ovocyte, c'est pas tout à fait pareil. Le stock d'ovocytes est prêt, en fait, de très très tôt dans la vie de la jeune fille. Et donc, c'est une sorte de besace qui se vide petit à petit. Puis quand il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus d'œufs,
Il n'y a
en fait.
plus de
Voilà.
réserve.
Voilà. Vous, du coup, on arrive, en fait, on est très très différents, on a l'impression qu'on est très différents, mais au final, on est garçon et fille, on est cyclique à peu près sous les mêmes hormones. À la différence près, c'est qu'un garçon, il est élevé dans cette linéarité, dans cette croyance qu'en fait, il peut être fertile H24. Il y a cette fertilité, en fait, obligatoire. Ce qui est vrai, d'une certaine manière, parce que, bah oui, nous, même si on a une sorte d'andropause à un certain âge de vie assez avancé, on produit encore toujours des spermatozoïdes, on n'a pas une ménopause, un arrêt, je veux dire, assez marqué comme pour les filles. Mais il n'empêche, on est élevé comme ça dans cette croyance que, bah, en fait, il y en a tout le temps. Et du coup, arrêter la fonction, ça, ou faire disparaître le testicule, ça renvoie à un imaginaire qu'un garçon ne connaît pas. En fait, à l'imaginaire de la perte, à un moment donné. Et psychologiquement, moi, je vous garantis que c'est quand même pas gagné, quoi. C'est pas gagné, cette histoire de perte. C'est pour ça que la vasectomie fonctionne bien dans les modèles anglo-saxons à partir d'un certain âge aussi, parce qu'au bout d'un certain âge, il y a l'idée de perdre sa capacité à pouvoir devenir parent. C'est plus trop un problème, en fait, psychologiquement. Parce que la personne est OK avec l'idée de se dire, de toute façon, je suis trop vieux, j'ai plus envie d'enfant, enfin, j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie. Voilà. Mais sur du temps jeune, un garçon, il n'est pas du tout élevé dans une approche cyclique, dans une approche de, à un moment donné, je suis fertile, à un autre moment donné, je suis infertile, comme les filles, avec le système des règles, où il y a quand même, en fait, cette fertilité qui n'est pas disponible tout le temps, en fait. Donc, vous êtes habitué à perdre quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte. Nous, pas du tout. Et la
C'est hyper
contraception, ça pose
intéressant.
la question de la perte.
La contraception, ça pose la question de la perte. Waouh,
Ouais.
j'avais jamais vu sous cet
Relation à la perte.
angle-là.
Tout à fait. Ouais.
Alors désolée parce que j'étais avec mes questions, je t'ai emmené un petit peu loin et ma première question initiale était justement sur ton anneau, voyons.
Oui, alors, cet anneau. Cette alliance péno-scrotale avec une approche cyclique. Oui, ben, en fait, l'idée de la contraception thermique, elle repose sur l'idée assez simple qui est connue depuis très longtemps. Hippocrate en parlait déjà. Le testicule n'aime pas la chaleur. En gros, c'est pour ça que les testicules sont externalisés et un peu éloignés du corps. Il faut une différence thermique de 1 à 1,5 degré avec la température corporelle, la température nasale, pour que le testicule produise des spermatozoïdes. C'est valable pour les êtres humains, dans le règne des mammifères, mais il y a plein d'autres mammifères où ce n'est pas le cas. Les dauphins, elles sont internalisées, les testicules, donc elles sont à la température du corps et ça fonctionne très bien. Chez nous, ce n'est pas le cas. On a vraiment cette relation à la chaleur. Et donc, depuis très longtemps, c'est étudié pour régler les problèmes d'infertilité, principalement, et de se dire, bah, du coup, il faut refroidir les testicules pour que le testicule produise des spermatozoïdes. Et depuis maintenant un demi-siècle, c'est investigué à des visées contraceptives. Et donc, l'idée, en fait, c'est de remonter ces testicules, de les internaliser au niveau du pubis, donc à la racine de la verge. Là où il y a les poils, juste au-dessus, là, à cet endroit-là, il est tout à fait possible de mettre les testicules à cet endroit-là. C'est une poche, en fait, qui est pensée dans le corps des garçons. Donc, c'est pas un truc foufou, hein. Pour rappel, les testicules migrent quand vous êtes dans le ventre de votre maman. Elles migrent des reins pour aller jusqu'à la poche scrotale. Donc, elles font un long voyage dans le corps. Elles sont au départ bien internalisées. Donc là, le but du jeu, c'est à nouveau de les internaliser une partie de la journée, une quinzaine d'heures par jour, 7 jours sur 7. Et ce cycle, en fait, d'exposition à la chaleur permet, en fait, d'arrêter de la production de spermatozoïdes. Et donc, pour ça, pour les maintenir dans cette poche, il faut inventer des suspensoires, parce que les testicules ne tiennent pas toutes seules. Ou alors, il faut les tenir avec la main, mais vous en conviendrez, c'est pas le plus pratique. Donc, il faut inventer des
Pas toute la
suspensoires.
journée, quoi. T'imagines toute la journée tenir à la main comme ça et marcher en même temps.
C'est ça, c'est ça. Il faudrait 4 bras, bon. Au moins. En tout cas, voilà, c'est pas top top. Donc, l'idée, c'est d'inventer des suspensoires. Et donc, les premiers suspensoires étaient en textile parce qu'ils ont été pensés dans les années 80. Donc, l'idée, c'est de venir au final enserrer verge et scrotum vide avec bah, un anneau en silicone et des systèmes un anneau en textile avec des élastiques, en fait, un système de harnais. pour en fait que cet anneau tienne et que les testicules en fait soient maintenus dans la poche au-dessus de la racine de la verge. En 2016, moi je suis arrivé avec ce postulat-là en disant ben, la thermique ça existe, en découvrant ce postulat-là, et ça se fait du coup avec des objets textiles qu'on fabrique soi-même. Moi j'ai pas pu le fabriquer parce que ben je comprenais pas trop le principe, il y avait peu d'informations aussi à l'époque, même si c'était quelque chose qui se voulait libre et libéré et comment dire accessible à tous, en fait ça n'était pas tant que ça, loin de là. Il n'y avait pas de tuto par exemple pour se fabriquer soi-même. Donc en gros les militants de l'époque m'ont dit bah t'as qu'à aller voir une couturière pour te fabriquer ou un couturier pour aller te fabriquer toi-même ton remonte couille. Et là je me suis dit je me vois mal à aller voir un professionnel de la couture pour lui dire tu vas me faire avec un slip un trou dedans et des élastiques pour me remonter les bouliches. Je voyais pas du tout le truc là. Et donc, il a été plus simple pour moi d'inventer un anneau en silicone où je me suis dit, mais fichtre, est-ce qu'un petit objet de forme annulaire ne permettrait pas d'avoir cet effet push-up, en fait, et de maintien? Donc, j'ai terminé dans un magasin de bricolage et je me suis rendu compte que, ben, justement, les anneaux toriques dont on sert principalement aux plomberies permettaient justement de provoquer cette ascension. Bon, certes, c'était ultra désagréable et pas du tout biocompatible et ergonomique, mais... techniquement, la remontée, elle était là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai inventé l'anneau. Et après, j'ai travaillé avec des bureaux d'études, un bureau d'études. Je me suis beaucoup inspiré du règne du vivant, donc je suis allé beaucoup chercher ce qui se faisait en biomimétisme pour comprendre un peu quelle forme, quelle structure il était possible de proposer sur cette partie du corps pour que ça puisse s'intégrer, en fait, un peu comme une paire de lunettes, comme un vêtement, aller chercher en fait cette intelligence de l'ergonomie et des volumes pour que ça puisse se pluguer le plus, comment dire, naturellement, le plus... En tout cas, que ce soit une technicité en fait qui puisse être intégrable dans le quotidien de la personne le plus simplement possible d'un point de vue technique et d'un point de vue psychologique. Parce que quand je montre un slip, un remonte-couille ou un jockstrap, c'est le harnais, et quand je montre un anneau, j'ai pas les mêmes réactions au niveau des gens. Voilà.
Donc l'idée, c'était vraiment que ce soit aussi intégré, comme tu faisais le parallèle, comme une paire de lunettes. Au bout d'un moment, ça fait partie du quotidien. On le met sur soi, on le sent pas. Et donc l'idée pour toi, c'était que aussi l'androswitch soit de la même manière finalement et bien intégré par les personnes qui l'utilisent.
Ouais, c'est ça. C'est ça. L'un des freins principaux à la thermique, c'était l'idée de se remonter les testicules. Il y avait ce côté-là, c'est inacceptable, en fait, considéré par les professionnels de santé, que ce soit le corps médical ou les développeurs de dispositifs médicaux et tout ça. Il y avait cette idée, voilà. Déjà, la contraception masculine, c'est compliqué à envisager. Alors, en plus, il faut toucher aux testicules, là, physiquement. Alors là, c'était... double peine, quoi. Tu vois.
Donc, et justement, fallait... est-ce que tu peux nous dire les plus gros freins, justement, face à la contraception, justement, pour testiculaire?
Les plus gros freins, ils sont socioculturels. Des alternatives contraceptives ou repenser le script contraceptif, le pattern, on va dire, général, faire éclater la norme contraceptive et tout ça, ça ne peut se penser que si on part collectivement du postulat que on est quand même encore dans un monde ultra patriarcal, capitalistique, que la santé a été marchandisée. Très clairement, que c'est un gros business et que la domination, en fait, d'une partie de la population sur une autre partie est encore ultra prégnante. Voilà. Et pour moi, c'est là qu'est le plus gros frein. Donc, sous couvert d'émancipation et d'acquis social, la contraception dite féminine, cet accès qui a été acquis de haute lutte, certes, en fait, a été aussi, en fait, derrière une récupération industrielle et capitalistique et patriarcale, en fait. Et comme souvent, en fait, des luttes sociales sont récupérées. Et c'est assez problématique. Et donc voilà. Et donc on l'a bien vu quand il y a eu les scandales autour de la pilule. Après 50 ans en fait de pratiques hormonales, on va dire, et de miniaturisation des objets type les dispositifs intra-utérins en cure et tout ça, à un moment donné, il y a une partie du corps social qui était en charge de cette contraception sous forme d'acquis social qui s'est dit, il y en a quand même un peu marre, non? C'est-à-dire, on pourrait partager peut-être. Et là, il s'est rien passé, en fait. Et là, il s'est rien passé tout simplement parce que ça avait déjà été récupéré par le patriarcat et par le capitalisme. Et donc, ça n'a pas changé. Et donc, en 2021, on en est encore là, en fait, à considérer une partie de la population comme une marchandise, en fait. Et alors, je sortirai, j'évacuerai quand même le frein des politiques natalistes et de la pression démographique un peu des États qui, en tout cas sur le monde, on va dire les pays du Nord, les pays plutôt, on va dire avec des PIB assez élevés, un peu moins. C'est plus aussi prégnant que post-guerre, Seconde Guerre mondiale et tout ça. Ça l'est plus dans les pays encore du Sud, mais en Europe, je pense plus que ce soit vraiment là le principal frein. Voilà. Donc le principal frein, il est patriarcal, il est capitalistique, mais en tout cas, il n'est pas du tout technologique. Et je pense très honnêtement que, comme toujours, hein, les changements arrivent de la masse, enfin de la population, de la société civile, de la base. Et la base, en fait, est en train d'évoluer en repensant ses scripts de genre, et donc est en train d'évoluer aussi sur ses pratiques contraceptives. Et on verra l'effet de ces changements plus tard. 15 ans, 20 ans, 25 ans peut-être, dans des nouvelles stratégies de santé publique et tout ça, qui ne seront pas encore matures.
Voilà. Ah oui. Ça va, enfin, on peut se dire que c'est encore dans longtemps, hein, 20-25 ans, mais moi je pensais vraiment que tu allais me dire on verra ça plutôt peut-être dans 100 ans, hein, le temps que les mentalités changent, que les croyances, qu'on repense ce script contraceptif. Mais finalement, voilà, tu es plus optimiste, toi tu dirais d'ici deux décennies, quoi, max.
Quand j'ai commencé, que je me suis remonté les testicules avec mon anneau, parce que du coup c'était mon anneau pour moi avec mon moule en mode do it yourself dans la tradition pure en fait de l'époque de développement de contraception plutôt masculine et militante. Quand je suis passé à l'action pour moi, je suis passé à l'action de manière globale parce que les copains et les militants justement me disaient ça nous intéresse, on veut aussi des anneaux. J'ai dit c'est pas la même chose que moi je me fabrique mon modèle et puis que je propose des anneaux pour tout le monde, c'est pas du tout. Je suis infirmier, enfin je suis pas entrepreneur, c'est pas pareil en fait. Je me suis dit ce genre de truc, ça va prendre allez 2-3 générations facile, un peu comme toi. Je me suis dit waouh, va falloir bien un siècle pour que ça change. J'étais pessimiste vraiment, mais en fait on se rend compte qu'il y a une sorte, comment dire, il y a une sorte d'accélération, parce que c'est un peu comme si on approchait à une sorte d'intersection des luttes, où en fait, il y a plein de thématiques sur lesquelles ça bouge volontairement, sur fond en fait de transition écologique et un peu d'urgence climatique. Tout est en train de bouger assez vite. Et donc, clairement, ça, moi, je trouve que ça a permis d'accélérer ces questionnements écologiques. Le confinement a beaucoup aidé, l'air de rien. Ça a été un accélérateur. Parce que ça a été des introspections obligées. Les gens ont été isolés et obligés à un moment donné d'être face à eux-mêmes. Et l'air de rien, ça a permis d'avancer. Donc ça a été des catastrophes humaines aussi monumentales, on est d'accord, hein, cet isolement. Mais aussi le bon côté, c'est que ça a permis aussi de libérer la parole dans les couples un peu et de mettre les gens en introspection. Et ça peut être que bénéfique sur le long terme.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui racontaient que pendant le confinement, et là dans les couples hétéros, donc coincés avec leur partenaire, et qui du coup s'étaient dit j'arrête ma contraception, j'en ai marre, je veux juste être libre, et qui du coup disaient j'arrête ma contraception, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà.
Et donc elles mettaient au pied du mur finalement ce partenaire, et le partenaire disait je sais pas, et bien recherche, alors quand même elle faisait la démarche en disant fais tes recherches, il y a des choses qui existent, tu vois, elles avaient déjà des fois les réponses ou des fois pas, mais elles disaient fais tes recherches et va chercher quelque chose, mais faut que tu prennes ça aussi en charge, quoi.
Ouais. Alors, c'est une chance et une malchance, ce truc-là, parce que, très clairement, encore une fois, c'est les personnes menstruées qui vont se charger de mettre en place leur décharge. Et c'est problématique, vraiment. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, par exemple, sur le média activiste Slow Contraception, 75% des personnes abonnées, ce sont des personnes menstruées, ou en tout cas considérées comme telles par l'application. Et ça, c'est un vrai problème. C'est de se dire, ils font quoi les garçons? Enfin, à quel moment? Parce que, il y a l'idée de
ils
se dire.
Ils sont complètement absents.
Ah, mais c'est ça, en fait. Donc, encore une fois, il va falloir les prendre par la main et les guider comme un enfant, en fait. Alors, ça se comprend. Pourquoi? Parce que, ben, ils sont pas éduqués à être responsables de leur fertilité et de leur sperme. Donc, on peut pas leur reprocher quelque chose pour lequel ils n'ont pas été, je veux dire, culturés. Il y a rien eu, en fait. On leur a toujours appris de, voilà, capote, protection, puis après, c'est plus ton problème, c'est une affaire de femme. Et toi, t'attends une méthode qui arrivera peut-être un jour. Et puis, quand t'es vieux, peut-être que tu pourrais faire une vasectomie. Voilà, on en est là. Donc, très clairement, la personne, quand on lui dit, on passe de, il y a rien à, et j'attends, tu vois, mais je veux bien, mais j'attends à, en fait, si, il y a des méthodes. Et maintenant, tu pratiques, il y a un gap, en fait, énorme. Et donc, il faut du temps pour que la personne, elle raccroche les wagons et qu'elle comprenne, en fait, qu'on lui a menti aussi. C'est ça, un peu. On lui a menti dans son système d'éducation. On lui a fait croire qu'il n'existait rien aussi.
Oui, on a menti aussi, on ne les a pas forcément éduqués à se responsabiliser dans le couple vis-à-vis aussi de la sexualité. On les a menti, on leur a menti, et puis il y a aussi, une fois qu'on a conscience de ça, bah, est-ce que c'est pas plus confortable de se dire, bon, on attend quoi. Ou je verrai quand je serai au pied du mur, mais pour l'instant, si je peux choisir, je suis confortable à rester, à pas m'en occuper, quoi.
Dans le cas de la contraception, ne rien faire et être dans cette posture attentiste, c'est une violence pure, en fait. C'est une forme de violence et de domination. Attendre et dire non, non. Je dis pas une personne qui se questionne, j'ai juste une personne qui attend. Ah, ben, moi j'attends. Non, t'attends pas, en fait. Tu te questionnes et tu trouves des solutions. Au pire, tu n'envisages pas la thermique. Tu dis non, ok, je veux les remontées testiculaires, pour moi, c'est pas possible, je ne peux pas toucher à mes testicules. Ok, pourquoi pas? Mais au moins que tu aies tout le temps des capotes avec toi. Au moins que tu aies envisagé l'idée de la vasectomie et que tu aies une position dessus et que tu saches comment ça se fait, qu'il faut aller voir, etc. Les gens ne savent même pas. Donc, ils pensent vasectomie, castration. Non, c'est pas pareil. Donc, déjà, informe-toi, en fait, et en fait, envisage ta vie contraceptive, enfin, vois-le comme une sorte de parcours à un moment donné, et un parcours que tu vas faire à deux, en fait. Parce que ça va être autour de la contraception, et peut-être envisage-le du coup d'une manière aussi très très personnelle en disant, mais peut-être que j'ai envie de maîtriser ma fertilité, mais juste pour moi, en fait, pas dans un parcours contraceptif, en fait. À quoi ça me sert d'avoir des spermatozoïdes produits tous les jours? La personne ne se pose pas la question, pourquoi je produis des spermatozoïdes? À quoi ça me sert là? À
Ils
rien.
sont pas connectés à leur corps souvent,
Sont
hein.
pas
Il y a aussi
connectés.
cette déconnexion. Ouais.
Totalement. Totalement. Donc, ne rien faire et attendre et dire, promis, quand ça sortira, je prendrai quelque chose, c'est une forme de domination et de violence. Et cette posture-là, il faut la changer.
Oui, et ça m'a fait le parallèle aussi où souvent ce qu'on entend c'est bah je sais pas, voilà, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment ça marche. Et ce qui est bizarre, c'est que tu demanderas à une femme, elle te dira ah bah j'ai fait mes recherches.
Exactement.
Donc il y a vraiment une différence entre la formation et là, mais c'est est-ce que je vais activement faire les recherches ou passivement attendre?
C'est ça, les garçons n'ont pas. Alors, je sais pas comment il va falloir leur dire, mais à un moment donné, un bébé, ça se fait à deux. Et enfin, vraiment, ça pose la question derrière de la parentalité aussi. Enfin, voilà, tu vois, l'incarnation du papa, à un moment donné, de cette posture, c'est toujours cette posture qui est un peu absente, où on dit, hey, les papas, ça prend plus de temps et tout. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça se passe pas dans leur corps. D'accord, mais ça se fait à deux quand même. Enfin, donc, à un moment donné, ils sont un peu co-responsables de ce qui va se passer dans un utérus. Donc, s'ils sont co-responsables, il faut qu'ils soient conscients qu'ils aient aussi une sorte de pouvoir d'agir ou de non-agir. Et ce pouvoir-là, il faut qu'il l'investigue. Donc les femmes, oui, sont en première ligne parce que ben, du coup, ça se passe dans leur corps. Donc là, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de distance. Là, c'est pour le coup, c'est vital, vraiment, en termes de choix. Mais pour le garçon, il faut qu'il arrive à comprendre que c'est aussi très, 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 très important pour lui, pour sa construction en tant qu'individu, mais sa construction aussi interpersonnelle dans le couple, cette conscience contraceptive.
Ouais. Oui, pour moi, il faudrait même, parce que c'est toujours la question, mais comment faire pour que voilà, les hommes s'y intéressent ou etc. Et je pense vraiment que ça passe aussi par l'éducation et partir de ce principe que dès que vous entrez dans de la sexualité, vous entrez dans de la sexualité en tant qu'adulte, et là, de la sexualité même avec une autre personne et une autre personne bah, là, dans les couples hétérosexuels, et donc vous devez être responsable de ce qui s'y passe aussi. Si vous voulez rentrer dans de la sexualité avec une autre personne de l'autre sexe, alors il faut s'informer, il faut avoir une responsabilité vis-à-vis de cet acte.
C'est-à-dire que c'est exactement ça. Mais on peut prendre un parallèle, si tu veux, avec la transmission MST-IST.
Oui.
où clairement un garçon en fait peut véhiculer énormément de pathologies, tout simplement parce que organiquement en fait la verge en fait transmet plus qu'elle ne peut recevoir en fait en termes de viralité, et c'est une sorte d'antenne en fait. Et non, mais c'est vrai, et du coup il y a eu un matraquage autour du VIH, c'était une très bonne chose, mais on le voit encore maintenant, c'est toujours compliqué, malgré des campagnes de santé publique, tu vois, de matraquage d'informations pour dire aux gens, mais protégez-vous, tu vois, c'est toujours compliqué, parce que les garçons ont une capote dans la poche. Et enfin, on le voit bien. Et je pense qu'en fait, il faudrait encore des campagnes de santé publique, mais massives, et conjointes, en fait, sur la contraception et MST-IST. Il faut mettre les deux dans le même panier, en fait. Et il faut taper fort, en fait. Et il faut taper fort et pendant très 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 longtemps pour arriver à petit à petit changer les mentalités.
Et encore une fois, revenir sur les prendre par la main, parce qu'il y a toujours le « ah oui, mais une capote, je me sens pas confortable, ou je perds mon érection, ou là 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 ». Et donc de les accompagner en déconstruisant tout ça et en leur apprenant en fait comment se servir d'une capote et l'importance, puisque une fois encore, eux ne le vivent pas dans leur corps. Ils peuvent être asymptomatiques justement de ces IST. Par contre, pour les femmes qui sont réceptives de ça, bah, ça se passe dans leur corps, quoi. Elles ont les conséquences.
Ouais. C'est un peu comme si le garçon était élevé dans une déresponsabilisation totale de sa sexualité, tout simplement parce qu'il n'avait pas d'utérus. C'est-à-dire, de toute façon, ça ne se passe pas dans son corps. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de le responsabiliser. En fait, c'est fou. Ça ne se passe pas dans son corps, certes, mais c'est une action conjointe. Donc, accès à la sexualité égale éveil et responsabilisation, quel que soit au final le sexe de la personne, quoi. Il faut qu'il y ait... Il y a un mode, à l'adolescence, autant on reconnaît, tu vois, la période de règles, l'apparition des règles, on en avait déjà parlé, mais voilà, l'apparition du sperme, c'est pareil, il n'y a pas du sperme depuis la toute petite enfance, ça, à un moment donné, il y a du sperme, avant, il n'y en avait pas. Il y a bien un moment dans la vie du jeune adulte, il y a un moment de basculement entre je suis infertile, en fait, je suis en incapacité de procréer, et je suis en capacité de procréer. Il y a bien un temps qui se fait, qui est totalement invisibilisé, donc il y a une absence de rituel autour de ça, mais il faudrait que, voilà, bah, les filles vont voir le gynécologue, mais tous les garçons devraient aller voir au moins une fois dans leur vie, genre à 18-20 ans, un andrologue ou un sexologue, pour faire le point sur MST-IST, sexualité aussi.
Ça, c'est très, très éducation important. Éducation sexuelle.
Eh oui, c'est ça.
comment choisir le bon préservatif?
Exactement. Comment donner du plaisir, comment recevoir, qu'est-ce que c'est le consentement, etc. Et aussi, peut-être, et aussi la contraception, quoi. Et l'air de rien, faire un petit check de santé, d'andrologie, pour que les garçons arrivent dans des parcours de santé en prévention et non plus quand ils ont du pathos, en fait. Et qu'ils aient conscience que, ben oui, la zone urogénitale, ben, c'est une zone qu'il faut checker, peut-être moins souvent qu'une zone urogénitale pour les femmes, pour plein de raisons organiques, mais en tout cas qu'il faut checker, en fait, et qu'il faut vérifier. Et le gros avantage chez un garçon, on peut vérifier aussi sa fertilité, parce que ça sert à rien qu'un couple ait des pratiques contraceptives si au départ l'un des partenaires est de toute façon stérile. Enfin, faut être à peu près clair, ou tout du moins, on peut adapter les pratiques contraceptives en fonction du degré de fertilité du couple. Ouais. Voilà, ce serait intéressant, ça aussi. Voilà.
Donc, que même l'État s'en empare et dise, voilà, à 18 ans ou peut-être à 15 ans, je ne sais pas, un rendez-vous avec un andrologue et ou sexologue pour les jeunes garçons pour parler des IST et contraception. Alors, contraception, ça sera plus adapté à des personnes justement hétérosexuelles, mais IST, en tout cas, ça s'applique à tout le monde. Et alors, tu parlais des changements aussi de mentalité, et quand on avait collaboré ensemble lors du premier colloque sur la contraception masculine en Belgique en février 2020, qui s'intitulait « Focus sur les couilles », qu'est-ce qui a évolué depuis? Est-ce que tu vois des changements même dans les nouvelles générations?
Il y a eu une énorme ouverture. Je ne sais pas ce qui a permis cette énorme ouverture, ou en tout cas cette... Il y a un peu une sorte de saut quantique, quoi. On est passé de, une centaine de personnes qui se contraceptent comme ça tous les ans et de manière plutôt confidentielle, on va dire, ou très militante ou politisée avec un entre-soi comme ça, à une méthode, à une connaissance, en fait, qui a été récupérée par un plus grand nombre de personnes, une sorte de massification, en fait, de la connaissance. qui touche pas tout le monde. Hein. Encore une fois, il y a plein de gens qui n'ont pas encore eu accès à ces informations, mais on se rend compte quand même que la base des pratiquants s'est vachement élargie. Et du coup, ben, les populations pratiquantes, en fait, sont beaucoup plus diverses. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est la massification des usagers. Cette massification des usagers, elle est allée de pair aussi avec la redécouverte, on va dire, du corps médical, de ces alternatives contraceptives. Parce qu'en gros, le corps médical était quand même au courant que ça existait, mais l'avait considéré comme... Enfin, l'avait mis dans un coin, en disant...
Pas important. Ça a l'air compliqué, pas important.
Ouais, ça a l'air compliqué, ça fait mal, c'est pas... Les médecins aiment bien parler de performance contraceptive aussi, et ils trouvent que la remontée testiculaire, c'est pas une méthode performante. C'est très questionnant.
T'as toutes les personnes qui utilisent du coup des contraceptions, des pilules, des dispositifs intra-utérins, des choses comme ça qui passent par tellement de souffrances, de conséquences et de poids, de charge mentale et qui ont envie de secouer en disant « mais de quoi vous nous parlez là ?»
Exactement. Exactement. Ben oui, mais une pilule, les dogs vont te dire « mais la pilule contraceptive, au moins, bah, c'est efficace dans le mois, enfin, tu vois, en quelques jours, c'est bon. Les méthodes contraceptives pour les garçons, il y a une sorte de frein, une sorte de plafond de verre physiologique qui fait que ben il faut attendre 3 mois. Parce que le cycle, c'est 3 mois. Donc, hormonalement, une vasectomie, ou la méthode thermique, ou ce qu'on veut, de toute façon, il faudra attendre 3 mois. Il n'y a que les méthodes barrières externes, donc capotes externes, qui a une efficacité immédiate. Mais toutes les méthodes qui vont être développées n'auront que des efficacités différées. Et ça, d'un point de vue médical, en fait, ils trouvent que le corps médical trouve que c'est pas intéressant, en fait, parce qu'il y a l'idée d'avoir une méthode de contraception tout de suite, une sorte d'immédiateté dans le parcours contraceptif avec une efficacité immédiate.
Mais ils pensent pas du coup au combo, parce que ça pourrait très bien être l'anneau, tu vois, l'anneau thermique ou remonter ses couilles plus le préservatif qui est immédiat en attendant. Et 3 mois, c'est rien en fait sur l'échelle d'une vie.
Bien sûr. Parce que les médecins voient le parcours de l'usager dans son parcours contraceptif comme un parcours purement individuel, donc isolé. Et non pas partagé dans une dynamique de couple. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc ouais, un parcours isolé.
Ouais, dans un parcours, parce que les médecins, du coup, oui, ils pensent pas à ce combo, donc parce qu'ils le pensent pas, parce qu'ils pensent pas du coup à cette relation finalement. Ils prennent que l'individu seul vis-à-vis de ça. Ils pensent à l'efficacité, à la performance. Ça doit être tout de suite, maintenant, le résultat. Et ils pensent à quoi d'autre?
Alors, en France, c'est vrai, en modèle anglo-saxon, c'est moins vrai, ce que je vais dire, et ils pensent surtout à la thune, à l'argent qu'ils vont se faire.
Ah, comment ça?
Bah, un médecin, il fait médecin parce que, certes, il a des belles pensées humanistes, mais c'est aussi pour gagner sa vie, on est d'accord avec ça, on travaille aussi pour gagner de l'argent. Et en France, la médecine est pratiquée de telle manière qu'un médecin est payé en fonction du nombre d'actes qu'il prescrit. Et non pas en fonction du nombre de personnes qu'il suit, quel que soit l'acte qu'il prescrit. Ça, c'est le modèle anglo-saxon. Il est payé, en gros, au nombre de... Un patient, en fait, c'est un forfait qu'il a. Il a X argent pour X personnes qu'il suit. En France, c'est pas comme ça qu'il est payé. En France, il est payé à l'acte. Donc, qu'il ait un patient ou 100 patients, ça change que dalle. Par contre, s'il prescrit 100 trucs, eh bien, il va être payé sur ses 100 trucs. S'il prescrit rien, il sera pas payé en fait sur il aura pas grand chose, il aura juste sa consultation en tant que telle, mais il aura pas plus. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Et donc la contraception masculine, enfin pour les garçons, pour ça aussi qu'elle est pas développée, c'est que mais on le voit sur la vasectomie, hein, la vasectomie très clairement, c'est un acte qui n'est pas très valorisé financièrement par la sécurité sociale. Donc en gros, c'est pas intéressant financièrement pour un urologue ou un andrologue. Un médecin généraliste devrait pouvoir faire aussi des vasectomies ou des sages-femmes. C'est pas très intéressant pour lui. Ça lui rapporte 100 euros la vasectomie.
Oui, parce qu'en fait, c'est parce que le patient, du coup, ne vient qu'une fois et puis c'est fini, ou vient peut-être une fois par an au lieu de revenir tout le temps pour peut-être une pilule un peu plus souvent.
Exactement. Exactement. Donc, comme c'est pas très bien valorisé aussi financièrement, les médecins, ils s'y engouffrent pas non plus, quoi. Parce que, ben, l'air de rien, ben, voilà, enfin, faire une prescription pour des capotes, ça va pas leur rapporter grand chose. La vasectomie, comme je vous ai dit, ça rapporte pas grand chose. Et en plus, c'est une intervention médicale qui est soi-disant obligatoire, enfin, qui ne peut être pratiquée que dans un milieu hospitalier. Enfin, Alors qu'on peut faire ça dans une chambre d'hôtel, on peut faire ça, on n'a pas besoin d'une infrastructure hospitalière pour faire une vasectomie, c'est faux. Donc il y a plein de contraintes qui font que c'est pas développé en fait. Parce que c'est compliqué à mettre en place. Il y a un délai de réflexion de 4 mois. Enfin, il y a, c'est pas simple quoi. C'est pas simple. Voilà.
Oui, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ce genre d'information, comme tu disais, un peu démédicaliser la santé, mais enfin, dans le sens où les gens ont besoin de cette information pour reprendre pouvoir sur leur corps et leur santé et pouvoir affirmer. C'est-à-dire que s'ils ont fait le choix, par exemple, d'une vasectomie, presque peu importe si le médecin dit non, alors, sauf s'il y a des raisons, des contre-indications, mais s'il n'y en a pas, s'il dit non, alors c'est peut-être de se dire, bon, bah, ce médecin, il n'est pas là pour mon bien-être, il est peut-être là, peut-être plus pour l'argent, et donc peut-être se référer à une autre personne plutôt que d'arrêter ce projet de vasectomie.
Tout à fait, tout à fait. Alors c'est une histoire qui est sortie il n'y a pas très longtemps en France, pareil du côté de Bordeaux. C'est une histoire particulière. Ça fait pas office de loi, mais c'est pour donner un peu l'ambiance au niveau de la vasectomie. Un garçon a voulu faire du coup une vasectomie, donc ça a été compliqué d'en trouver un médecin qui veillait bien parce qu'il était jeune. Donc c'est toujours compliqué pour faire les vasectomies pour les jeunes. Le corps médical freine toujours un peu les cas de fer. La ligature des trompes, c'est encore pire.
C'est
Bref,
pareil.
c'est scandaleux. Le gars s'est retrouvé à faire sa vasectomie. Il était au RSA, il n'avait donc pas beaucoup d'argent. Donc, bien sûr, il y a toujours des dépassements d'honoraires dans ces cas-là. Donc, c'est là où le médecin vient justement survaloriser l'acte, en fait, pour gagner un peu plus, en fait. Déjà, il paye. Et la vasectomie a été codifiée dans l'hôpital où il l'a fait comme une opération de chirurgie esthétique. Donc, il s'est même pas retrouvé, il a même pas pu être remboursé de sa vasectomie. La vasectomie, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, d'accord? Chirurgie esthétique n'est pas remboursée pour la simple et bonne raison que c'est de la chirurgie esthétique. C'est pas dans le cadre d'une pathologie. Voilà, en tout cas, cette forme-là. Et du coup, c'est pour dire à quel point c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'accès. Ça peut du coup être coûteux aussi pour la personne qui le pratique. Et on le voit, les professionnels de santé sont tout sauf avertis, sont capables en fait de mal codifier aussi ces actes-là, qui pourtant sont quand même reconnus et utilisés depuis le début des années 80 en France. Hein. Ça a mis très très longtemps avant d'être légal, la vasectomie. Donc voilà, c'est très 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 questionnant, quoi.
Il y a beaucoup de choses à changer, on voit à plusieurs niveaux, quoi. Pas au niveau juste des individus, mais au niveau de la société, puis au niveau de la structure aussi des médecins ou du milieu de professionnels de santé. Et alors, pour les contraceptions du futur? Là, est-ce que si on peut justement être optimiste et se dire, bon, bah, il y a de la recherche qui est faite à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a de proposé pour le futur? Peut-être un futur proche, hein, je ne sais pas.
Alors, le futur immédiat, tout de suite là, c'est clairement que déjà les garçons s'informent et gagnent en responsabilité. Ça, il n'y a pas besoin. Enfin, comment dire On n'a pas besoin de grandes politiques de santé publique pour que ça se passe comme ça. On a simplement besoin que les gens changent individuellement. Ça peut aussi passer, voilà, par du changement individu par individu. Et donc, faisons société nous-mêmes et informons-nous nous-mêmes et aidons-nous à évoluer. Donc, il y a une énorme médiathèque sur le site de Thorem. Voilà, que les personnes menstruées, voilà, puissent aussi se décharger de cette manière en disant, bah, en fait, tu vas t'informer par toi-même. Tout est là. C'est prêt. Voilà, donc
Clé en
c'est
main.
vraiment le temps immédiat. Dans le temps immédiat, il y a continuer à pratiquer les contraceptions thermiques et hormonales. Avec les contraceptions thermiques, c'est soit par l'intermédiaire d'un collectif, soit se fabriquer soi-même son dispositif, soit acheter des anneaux Androswitch. Alors les anneaux Androswitch, les ventes sont suspendues, mais un artiste a repris la main et propose par l'intermédiaire de son site Coucou Coucou, qui est connecté à Thorem, des objets décoratifs, donc des talismans réversibles, que vous pouvez poser sur votre cheminée ou détourner d'usage, comme tout objet de mercerie que vous détournerez pour fabriquer un jockstrap. Donc la lutte, elle est maintenant. Elle n'est pas dans l'attente. Maintenant, on passe à l'action. Ça, c'est le premier point. Immédiatement, ce que les gens peuvent faire, et je les invite fortement, on a créé une coopérative qui s'appelle Entrelacs.coop. C'est le premier incubateur, en fait, de la société civile. Donc, chaque personne peut intégrer cette coopérative en devenant sociétaire, en participant aux décisions, pour que, en gros, nous choisissions nous-mêmes ce qui arrive sur le marché en tant que dispositif médical à visée contraceptive. Cette coopérative a mis en incubateur Thorem. Et donc, Thorem est accompagné dans son parcours réglementaire pour avoir cette fameuse certification CE et donc pouvoir revenir sur le marché officiellement d'ici 4 à 5 ans. Donc ça, c'est en place. Si des personnes écoutent ce podcast et ont de l'argent, très clairement, il faut 1 million d'euros pour pouvoir aller à la certification. 1 million d'euros, c'est rien. C'est rien à l'échelle du changement sociétal que ça peut apporter. Donc, n'hésitez pas à nous accompagner dans ces parcours. On a aussi besoin d'argent et de mécènes. Donc, voilà, j'appelle aussi, je fasse un petit appel aussi en ce sens-là. Si on arrive collectivement à la certification de l'anneau, par exemple, et du jockstrap en suivant, etc., il va y avoir techniquement, en fait, un changement. Et donc, les laboratoires pharmaceutiques vont pas accepter de perdre des parts de marché. Et donc, automatiquement, ils vont débloquer des contraceptions qu'ils ont dans les tiroirs, qui n'attendent que ça, en fait, d'être débloquées, en fait, et d'être proposées sur le marché. Les méthodes qui arrivent, très clairement, c'est quoi ?
C'est reprendre la lutte, tu vois, c'est ce que tu disais un petit peu, ils vont reprendre cette lutte qui a été menée par des individus et des entreprises pharmaceutiques ou privées vont reprendre, du coup, cette lutte.
Exactement. En fait, faut les attaquer sur leur propre système. Faudrait les attaquer aussi d'une manière assez simple. Quand est-ce qu'il y aura une politique de santé publique aussi un peu plus activiste et qui va se mettre à taxer sous forme d'amende les lobbies pharmaceutiques lorsqu'elles ne répondent pas en fait aux enjeux de la société civile, parce qu'encore une fois, les lobbies pharmaceutiques n'ont aucune contrainte à mettre sur le marché des choses. En fait, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc c'est un pur marché qui est totalement dérégularisé, en fait. Et à un moment donné, comme il y a une taxe carbone, on pourrait très bien imaginer une taxe société civile. Et cette taxe pourrait permettre de financer la recherche. Et donc aussi de trouver ces millions d'euros, par exemple, qui soi-disant manquent et introuvables. La contraception, de manière générale, c'est 24 000 milliards de dollars par an. On a besoin de 1 million d'euros. Vous comprenez l'inéquité et le jeu de balancier énorme. Le budget de la recherche en termes de contraception, c'est 90% pour les recherches plutôt féminines et à peine 10% de la recherche pour les contraceptions dites masculines. Avec ce chiffre, vous prenez une balance et vous regardez. Alors, du côté des personnes menstruées, on a 13 méthodes et du côté des personnes à testicules, on a deux pauvres méthodes qui ne sont pas des méthodes. Et pourtant, seulement 10% du budget de la recherche est injecté dedans. Chercher l'erreur. Voilà. Donc, dans un futur proche, si on arrive à la certification et à faire en sorte que la société civile soit assez forte pour pouvoir se mobiliser sur la question, eh ben oui, il y aura des méthodes enzymatiques qui vont arriver. Et là, oui, ce sera des pilules. Donc, l'idée, c'est de bloquer le développement du spermatozoïde avec des enzymes qui sont nécessaires au développement du spermatozoïde. Ça, c'est le premier point. Les méthodes hormonales, elles vont arriver aussi. Ce seront des méthodes sous forme de gel, très probablement, parce que les injections intramusculaires avec une énorme piqûre dans la fesse, ça va pas marcher très longtemps le système. En tout cas, pas sur des dizaines de milliers de personnes, ça paraît un peu compliqué en termes d'aptitude à l'utilisation, donc ce sera sous forme de gel. Mais ça existe déjà, et c'est déjà développé, et ça a passé toutes les tests. Il manque simplement un intérêt dans le lobby pharmaceutique pour le faire. Là, pour le coup, vraiment, l'hormonal, c'est comme la dermique, il manque juste l'intérêt du lobby pharmaceutique, donc il va falloir le contraindre. Les autres méthodes aussi qui pourraient arriver, et pareil, qui sont développées depuis 40 ans, c'est les méthodes barrières, mais en gros, dans le canal déférent. Donc là où passent les spermatozoïdes, l'idée c'est de mettre un bouchon à l'intérieur. Donc pas couper, comme la vasectomie, mais mettre un bouchon, ce qu'on appelle le Riseug, le vasalgel. C'est des méthodes éprouvées, qui fonctionnent. On a toujours des craintes au niveau de la réversibilité sur ces méthodes, parce que elles ont été pas assez investiguées à mon avis, enfin, si on regarde les essais cliniques, mais il n'empêche, l'idée de mettre un bouchon qu'on peut mettre et qu'on peut enlever, ça peut être une bonne solution. Il y a dans les mêmes veines, il y a le BIMEC, qui est développé par un Allemand pareil depuis au moins 10 ans. Donc là, c'est un interrupteur, purement et simplement, qu'on vient mettre sur le canal. Donc en gros, on le bouge pas, on le coupe pas, on met juste un clip dessus, une miniature. On ouvre et on ferme. Ça aussi, c'est des méthodes envisagées. Et enfin, les méthodes... alors là, on est dans assez loin, mais c'est, à mon avis, les méthodes qui vont arriver d'ici peut-être un siècle, c'est les méthodes immunologiques. c'est-à-dire se servir du système de défense du corps, en fait, pour détruire, donner en fait l'information au système immunitaire et lui dire à un moment donné, bah là en fait tu détruis ton stock de spermatozoïdes. En gros, tu continues la production, par contre la production est détruite sur place. C'est quelque chose en fait qui fonctionne déjà dans le cadre de la vasectomie. Par exemple, il y a une réaction immunologique qui se met en place. Pas chez tout le monde, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sperme n'est pas reconnu comme appartenant au corps par le système de défense du corps. Donc, les globules blancs détruisent les spermatozoïdes quand ils sont au contact des spermatozoïdes. Voilà. On n'arrive pas à inverser, par contre, à dire au système immunitaire, arrête de détruire. Mais le jour où on arrivera à justement instrumentaliser le système immunologique, et ben on aura des pilules en fait qu'on pourra prendre, qu'on soit garçon ou fille, en tout cas à visée contraceptive pure, et en fait ça détruira purement et simplement en fait le stock. Voilà.
Ok, donc l'immunocontraception pour l'instant c'est plutôt à visée définitive tant qu'on n'a pas trouvé cette réversibilité.
Exactement.
Ok. Ouais, donc il y a pas mal de choses en stock, comme tu disais, qui demandent des fois aussi, certaines contraceptions demandent aussi des essais cliniques. Hein. C'est ça, je crois que hormis le Rizug, le gel, là, il n'y a pas eu d'essais cliniques sur les autres.
Tu parles de tout ce qui est Rizug, là, ou tu parles du gel hormonal?
Non, le Rizug, pardon, ouais.
Alors, le Rizug, donc le bouchon qu'on met dans le canal déférent, il y a eu beaucoup de tests. En Inde, il y a encore quelques années, il y a eu une sortie pareil de pas mal de tests. Ils ont testé l'efficacité, l'acceptabilité, on va dire l'absence ou le peu d'effets secondaires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'ils n'ont pas testé vraiment chez le garçon, c'est la réversibilité. C'est un peu ce qui pêche. C'est pareil, ça a été testé aux États-Unis, hein. ça a été récupéré, ça s'appelle le Vasalgel par la fondation Bloomberg. Et c'est pareil, ça a été testé, mais on a du mal à avoir accès aux données cliniques sur la réversibilité. Il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est compliqué d'avoir les données. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas développé. Voilà. Ils ont testé la réversibilité chez les primates, mais chez le garçon, ils l'ont pas testé. Je rajouterai quand même une autre méthode de contraception qui existe, c'est l'utilisation de la sylodorosine, je crois, si j'ai bonne mémoire. La sylodorosine, c'est une sorte de bêta-bloquant. En gros, ça vient se mettre en fait, sur les récepteurs de certains muscles, les muscles lisses. C'est plutôt utilisé justement sur les gens qui ont des problèmes cardiaques ou d'hypertension. En gros, ça vient assouplir en fait les tuyaux dans lesquels passe le sang, en gros. Et c'est utilisé par exemple dans les cadres de l'hypertrophie de la prostate. Quand la prostate grossit, en fait, du coup, ça peut faire mal. Et donc, le plancher pelvien, donc là où est la prostate, c'est une sorte de hamac avec plein de muscles dans tous les sens. Et ce plancher pelvien, en fait, avec des bêta-bloquants, en fait, il s'assouplit. Et en fait, ça permet justement d'éviter d'avoir mal quand on a une hypertrophie de la prostate, mais ça a une autre action. Comme le plancher pelvien est assoupli, en fait, quand il y a éjaculation, en fait, il y a contraction du plancher pelvien. Et donc, si le plancher pelvien est assoupli, il n'y a pas d'éjaculation. C'est une contraception en fait purement mécanique où en fait les muscles sont tellement souples qu'au final, oui, il y a plaisir, oui, il y a production de spermatozoïdes, mais le plancher pelvien ne fait pas son action contractile en fait pour éjaculer et évacuer du sperme. Et donc du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle une anéjaculation. Il n'y a pas d'éjaculation en tant que telle. Et ça, c'est
il y a une érection. Parce que personnes peuvent se demander est-ce que l'érection est quand même là.
Non, il y a une érection. Il faut le prendre quelques heures avant l'activité sexuelle. Quand on envisage d'avoir un rapport sexuel avec une éjaculation et dans le cadre d'une relation pénoscrotale, enfin bon, hétérosexuelle, cisgenre et tout ça. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on prend en fait. On peut se mettre le corps, se charger de cette molécule quotidiennement. Les effets secondaires, c'est que ça peut provoquer de l'hypotension orthostatique. En gros, comme ça assouplit en fait une partie du muscle. Au niveau de la tension, elle peut être un peu plus basse. Donc, c'est pas adapté chez tout le monde. En tout cas, c'est une possibilité. Et ça, c'est un médicament qui existe, qui est sur le marché, qui a une autorisation de mise sur le marché pour l'hypertrophie de la prostate. Dans les effets secondaires, c'est noté attention, anéjaculation.
Intéressant. Ouais.
Et ça, c'est un médicament, c'est pas, comment dire, là, on peut pas dire, ouais, mais bah attends, peut-être que ça provoque un cancer de la prostate ou je ne sais que ça. Enfin, c'est des médicaments qui sont utilisés dans le corps des garçons depuis au moins 10 ans. Enfin, du coup, là, on sait au niveau des effets secondaires ce que ça peut faire et on est sûr que ça a un effet contraceptif. Et bien ça, c'est toujours pas sur le marché pour proposer une contraception. Pourtant, c'est là.
C'est comme si on faisait pas les liens, quoi. Les liens avec, tu vois, avec tous les médicaments peut-être proposés, les effets secondaires. Finalement, on se dit, bah, dans les effets secondaires, ça peut en fait avoir des effets positifs si l'intention est justement de se contracepter, par exemple.
Exactement,
exactement. Très intéressant. Et avant de poser ma question finale, est-ce qu'il y a autre chose que tu vas ajouter par rapport à cette nouvelle ère?
Oui, moi je pars en bateau.
Yes, ah oui, dis-nous. Parce que j'avais demandé tes actualités, donc ça faisait partie, mais vas-y, dis-nous tes actualités.
Du coup, Thorem continue son activité et en incubation avec Ontrola. Donc la certification va arriver d'ici 4 à 5 ans. On croise les doigts pour avoir principalement de l'argent, mais en tout cas sur papier, ça fonctionne. On a les partenariats avec les centres hospitaliers universitaires, on a une communauté de médecins aussi qui suivent, enfin, on est pas mal de ce côté-là. Ce qui manque là cruellement en fait, c'est d'européaniser le projet. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir un certificat CE et de dire ben voilà, c'est possible, c'est légal. Encore faut-il que les gens soient au courant que ces méthodes existent. En fait, on se rend compte qu'en fait, c'est des méthodes qui n'ont jamais vraiment dépassé les barrières de la francophonie. Et c'est très problématique. Quand tu vois en Belgique, clairement. C'est moi qui vous ai fait découvrir la thermique, quoi.
Tellement, tellement.
En 2019, ouais. Hein. Autant dire que même dans un bassin francophonique, l'information n'a pas vraiment beaucoup circulé.
Non, et c'était l'effet d'une bombe quand tu nous l'as amené ici en Belgique en 2019. Hein.
Ah ben totalement, totalement. Et puis vous avez pu l'incorporer et enfin je veux dire, c'était une petite révolution quoi, à l'échelle de la Belgique.
Oui.
Donc imaginez au niveau européen la bombe que ça peut être, très clairement, cette information. Et donc je vais me faire un grand plaisir de pouvoir retourner un peu à mes premiers amours entre guillemets, qui sont vraiment la mer, le bateau, et donc naviguer au travers des canaux, me servir de cette symbolique des canaux européens pour aller informer et sensibiliser et créer des comités d'usagers partout où je vais passer, où on va passer, parce que c'est une aventure collective avec le contraception entre là. Et donc l'enjeu, c'est de mettre en place des comités d'usagers dans plein de villes d'Europe et dans plein de zones rurales aussi, pour faire un maillage en fait d'acteurs en lien avec à chaque fois des médecins, des associations locales, et pour petit à petit en fait européaniser cette connaissance, pour que quand oui on aura une certification, et ben les populations en fait soient prêtes dans leur bassin socioculturel respectif. Donc c'est une grande aventure qui commence et que vous pourrez suivre aussi prochainement. Mais voilà, on s'est rendu compte que encore une fois, on l'a vu sur la vasectomie, c'est pas la légalisation de la vasectomie qui a fait un boom en termes de pratique en France, par exemple. Ce qui a fait un boom, c'est, du coup, on sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais là, depuis
parler.
2 ans, boom.
Les médias qui le montrent sous un autre aspect, peut-être qu'ils le prennent vraiment au sérieux aussi.
Alors, oui, les médias, ouais, ont vraiment changé de leur fusil d'épaule, vraiment sur les pratiques contraceptives. Mais alors, sur la thermique, ça a été radical, hein. On est passé de méthodes qui étaient considérées comme risibles, enfin, totalement déconnectées à une réalité, c'était du charlatanisme, enfin, tout y passait, hein, vraiment, à quelque chose de non, c'est sérieux, c'est bien, on cautionne et on y va. Ouais, mais non, voilà. Le pouvoir médiatique a permis aussi de révolutionner un peu les pratiques. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de tenter justement un mouvement européen. Avec ce bateau, voilà.
Bravo. Donc on peut suivre tes aventures, on peut sponsoriser, j'imagine, pour les personnes qui écoutent, qui veulent sponsoriser ton voyage, c'est possible aussi?
Ouais, c'est possible aussi, c'est tout à fait possible. Il y a un site qui s'appelle Les Contraceptés, ou The Contracepted, parce que ça va être, je pense, en anglais principalement. donc oui, vous pouvez suivre. Depuis Thorem aussi, il y aura des liens, vous avez des liens aussi pour retrouver l'activité. Il y aura une page Instagram. Et donc ouais, le but du jeu, ça va être de parcourir l'Europe pendant 4 à 5 ans à peu près, le temps de la certification. Et donc chaque année, sur la période plutôt printemps-été, de faire une partie de l'Europe. Et donc le tour commence en 2023 avec la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et le bateau sera hiverné pour 2023 en Angleterre. Parce que c'est pareil, les Anglais ne connaissent pas cette méthode-là. Et pour dire, il y a le premier article qui va sortir. L'émission est en février, donc il sera sorti. Il y a eu la première sortie d'un article, en fait, dans The Time, en Angleterre, là, qui est sorti. Et donc c'est le premier, en fait.
J'ai
C'est la
des
première
frissons.
fois vraiment ils en entendent parler, donc dans un média de référence. Et donc oui, l'hiver se fera en Angleterre parce que voilà, c'est
L'hiver sera chaud.
l'hiver sera chaud auprès des poils, en effet.
Génial, waouh, c'est dingue, c'est vraiment dingue en si peu de temps, finalement, ce boom, quoi. Et alors, ma question finale, si les gens devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ça serait pour toi, la première chose qui te vient en tête?
Pour moi, je pense que ça passe par un temps d'écoute. Je pense. L'écoute de soi et l'écoute de l'autre, en fait. Parce que c'est une connaissance enfin, je veux dire, l'accès à la connaissance et sur cette thématique-là est encore trop faible. L'accès au consentement aussi, cette culture du consentement est pas encore assez développée. Et je pense que ouais, le principal chantier, il va être sur l'écoute, en fait, de soi et de l'autre. Si, pour moi, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, quoi. Avant de vous activer, avant de passer à l'action, commencez par écouter. Et après, agissez.
Un temps d'écoute, écoute avec un grand E et ensuite agir.
Ouais.
Maxime, merci beaucoup. Je te souhaite du coup un bon voyage, bon vent
Merci.
et merci pour tout ce que tu mènes de front et ton activisme et vraiment merci pour tout ça.
Merci Camille, merci de m'avoir reçu.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.